إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والنبيين أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، donc nous allons reprendre l'explication de l'Hashmawi, Inch'Allah, pendant le truc. Et on va refaire peut-être un résumé de la première partie qui concerne le chapitre qu'il a intitulé « Ce qui annule les ablutions ». Je rappelle que le Cheikh l'Hashmawi était un des grands savants du rite malikite, donc qui concerne le nord de l'Afrique à peu près, qui est le rite qui est pratiqué aujourd'hui en majorité par les musulmans en France, et que il a c'est ce qu'il explique au début, qu'on lui a demandé en fait de rédiger un petit manuel qui permet à un tout pratiquant à un niveau très bas de pratiquer son rite en sachant ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe le mot utilisé pour ça, c'est un matn. Alors les savants écrivaient ou une prose, c'est-à-dire telle qu'elle est là, ou souvent ils écrivaient un poème. Ils expliquaient tout ce qu'il y avait à faire dans le rite. Alors pourquoi cette méthode-là a été utilisée par ces savants-là? Parce qu'elle est très simple en fait. Les gens apprennent un peu comme si vous appreniez les règles de bonne conduite à votre enfant avec une petite chanson. À la Clairefontaine, vous mettez un texte de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, ils l'apprendront plus facilement que si tu lui dis j'ai vu qu'aussi il y avait les 10 commandements en petite chansonnette là pour apprendre aux enfants les 10 commandements quoi. Et il faisait ça, mais la subtilité de la chose réside dans le fait que bien que ça soit un texte très très simple, il y a tout dedans. Et on peut aller de la compréhension infantile à la compréhension des très grands savants. Par exemple, l'Hashmawi a été, jusqu'à une époque très récente, a été apprise par cœur. On apprenait ça à l'école. C'était la première section, les premiers niveaux d'enfants. Ils apprenaient ça par cœur. Et après, on était tranquille. Après, au fur et à mesure qu'ils avançaient, on rentrait dans des détails, des choses plus pointues. Mais il suffit de lire le texte quel qu'il est pour qu'une première compréhension simple et facile à acquérir soit compréhensible par tous. Après, on peut rentrer dans des détails. Et ça, on aura besoin de rentrer dans les détails que si les détails sont importants pour nous. Il est évident, je prends un truc tout simple, que les règles d'ablution, par exemple, pour les hommes et les femmes, ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'un homme a besoin de comprendre quelles sont les règles du lavage d'une femme quand elle a eu ses menstrues? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin forcément de rentrer dans des détails. Par contre, c'est une obligation pour une femme. Puisqu'elle est une femme, et à la limite, on dit, mais une femme qui n'a pas de menstrues, elle n'a pas besoin. Elle n'a aucune obligation de les apprendre, puisqu'on n'en a pas.
Non, mais elle peut apprendre, par exemple, la fille.
Oui, alors là, mais dans ce cas-là, ça sera pareil pour l'homme. Il pourrait l'apprendre pour l'enseigner à sa femme si elle ne le sait pas. Mais ça, on ne rentre pas dans les obligations. Ce n'est pas une obligation. Mais par contre, c'est une obligation pour celui qui le fait. On dit par exemple que quand quelqu'un se convertit à l'islam, quelle est la première des choses qu'il doit apprendre? Non, oui, ça il l'a prononcé. Mais non. Tout de suite après.
L'ablution.
Non, mais là, il les a fait, parce que pour prononcer les shahad, il faut être en état de pureté. Il faut avoir fait, moi, les ablutions, le rusul, c'est-à-dire le grand lavage, avant de prononcer la shahad. Mais tout de suite après, quelle est la première obligation de l'islam qu'il va avoir à faire? La prière. Donc, il doit apprendre la prière de celle qui va venir. C'est-à-dire que s'il a prononcé la shahad dans l'après-midi, il aura la prière de l'après-midi, donc les 4 rak'at, il doit au moins savoir comment il se déroule. S'il les a appris, c'est le Maghreb qu'il doit apprendre, et ainsi de suite. Et si c'est après l'Aïcha est sorti, la première qu'il doit apprendre, c'est le Fajr, c'est-à-dire les 2 rak'at de Fajr. Donc c'est tout de suite. Donc ça va être la première des choses qu'il va apprendre. Et tout de suite après, il doit, parce que ça va être dans le truc, que la prière du vendredi est une obligation qui est basée sur certaines règles. Donc la prochaine chose qu'il doit apprendre, c'est que le vendredi prochain, il a l'obligation d'aller à la prière. Et ainsi de suite, après, tout de suite après, ça va être le ramadan, parce que c'est tous les ans. Après le ramadan, bah, ça va être le pèlerinage à la fin. Mais il va apprendre les choses les unes après. Et elles ne sont obligatoires pour lui qu'au moment où elles se présentent. D'accord ? Donc ça, c'est la première des choses. Lui entend les règles de cette manière-là. Donc il les apprend. Et par exemple, pour la zakat, celui qui n'est pas commerçant n'a pas besoin de connaître les règles du commerce de la zakat. Parce qu'il ne sera jamais assujetti à donner l'aumône en tant que commerçant, parce qu'il ne l'est pas. Pareil pour un agriculteur. L'agriculteur doit connaître toutes les règles concernant l'agriculture, mais il n'a pas besoin de connaître les règles concernant le commerce ni les autres zakats. Chacun va rentrer dans son domaine à lui. Mais il est évident que l'islam, une des règles de l'islam, c'est la prudence. C'est la prudence, c'est-à-dire, si vous avez une obligation qui vous est imposée et que vous ne la connaissez pas par ignorance, c'est pas une excuse, c'est un peu comme pour la règle française, nul n'est censé ignorer la loi. Donc connaître la loi est une obligation. Donc, quand on lit un texte comme celle-là, comme celui-là, pardon, on a à peu près tout. Alors on voit tout de suite si on va être intéressé. Si on va rentrer dans les zakats des bétails, des chèvres, des chameaux, des trucs comme ça, moi j'ai ni chèvre ni chameau, il n'y a rien du tout, donc j'ai pas besoin de savoir combien il faut sortir de chèvres et de chameaux, parce que j'en aurai pas. Mais on sait que c'est obligé. Si un jour, on sait jamais, imaginez que demain, quelqu'un vous fasse don ici, à pont de 100 chameaux. Vous vous retrouvez dans un problème, il faut sortir la zakat sur 100 chameaux, donc il faut savoir rentrer dans les détails, dans ces choses-là. Donc vous voyez, et donc là, en règle générale, les savants, quand ils écrivent un texte comme ça, ben, ils commencent par ce qui est obligatoire, et la première des obligations, c'est les ablutions. Les ablutions et le lavage, parce que avant de se convertir à l'islam, il faut avoir fait les ablutions, ce qui est d'ailleurs une règle générale dans toutes les religions. Et si vous étudiez les autres religions, vous verrez que les règles d'ablution de l'islam sont très petites par rapport à d'autres règles. Je relisais les règles judaïques qui imposaient un lavage rituel pour chaque prière. Certaines écoles demandent qu'avant de faire chaque prière, il faut se laver entièrement. C'est-à-dire prendre un bain entier. Mais attention, c'est pas avec n'importe quelle eau, il faut que ça soit une eau consacrée dans un endroit consacré et truc. Donc ça, on rentre dans des trucs qui sont extraordinaires en truc. En Inde, pour l'hindouisme par exemple, le bain rituel forcément doit être avec de l'eau du Gange. Une autre eau ne peut pas être utilisée pour le bain rituel. Donc vous voyez qu'on peut rentrer dans des choses, mais c'est la purification par l'eau et par le feu est à peu près admise généralement. L'eau, le feu et la terre comme purifiant est admis à peu près par toutes les cultures et par toutes les religions. Et l'islam les reprend d'ailleurs. Il ne sort pas de sa règle-là en considérant que l'eau, il est le premier purificateur. Donc, je lis le texte en français, hein, je ne vais pas me rentrer dans le texte en arabe, je lis le texte en français, je le commenterai à fur et à mesure. Donc, il commence par rendre gloire à Dieu, il dit le savant et instructeur cheikh Abdelbari al-Ashmawi Rufa'i, donc qui appartient à la ville de Rufa' qui est en Égypte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: des amis m'ont demandé de rédiger une introduction dans le fiqh de l'imam Malik ibn Anas, qu'Allah l'agrée, et j'ai répondu à leur demande en espérant la récompense d'Allah. Donc il dit qu'en fait il a bien fait un résumé du rite, mais du rite malikite. Là, on a à peu près 4 écoles. Revenez au texte qui a été fait l'année dernière et au discours de l'année dernière sur les 4 écoles juridiques. Donc on a à peu près 4 écoles dans l'islam qui sont le rite Hanafi qui est référence à Abu Hanifa, le rite Maliki qui est la référence à Malik ibn Anas, le rite Shafi'i qui est l'imam Ismail ibn Shafi'i, et le rite Hanbali qui est référence à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors pourquoi 4 rites? Les 4 rites sont là pour donner des différences minimes. Faut pas voir des différences. ne va pas un vous dire la prière est obligatoire, l'autre il va dire c'est pas obligatoire, c'est pas du tout ça, mais dans des terminologies qui sont sujettes, comme on avait dit dans la compréhension, à des rites, à des cultures, à des interprétations linguistiques des mots, et chacun va aller dans un sens. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, les différences. C'est-à-dire quand on dit la nuit tombe, on prend l'exemple de la nuit tombe, on dit vous devez rompre le jeûne la nuit tombante. C'est quoi la nuit tombante? Quand le soleil disparaît et que c'est tout noir, ou quand c'est juste le soleil, vous ne le voyez plus? Mais si j'habite dans un endroit montagneux et que j'ai l'Himalaya dans moi et que le soleil est derrière l'Himalaya, est-ce que la nuit est tombée ou pas? Parce qu'il fait encore jour. Parce que le soleil est derrière la montagne éclaire encore beaucoup suffisamment. Est-ce que la nuit est tombée ou pas? Les savants, ils n'ont pas été d'accord. Ils ont posé des règles. Et ces règles-là, c'est les écoles juridiques qui nous ont clarifiées. D'accord? C'est ça la simple différence. C'est par exemple maintenant, vous prenez un truc qui est très simple, essayez de le faire, tapez sur internet, les horaires de prière pour un endroit. Vous allez souvent trouver des endroits, des heures différentes. Parce que le calcul, il est différent. Certains savants ont situé les calculs des heures différents. Pourquoi? Par la compréhension du terme. Du terme qui est utilisé pour définir la... quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il n'y avait pas la montre. Il n'a pas dit faites la prière à 13h32. Il a dit faites la prière quand l'ombre de chaque élément est égale à lui-même. Donc, il est évident que l'ombre de chaque élément est égale n'est pas le même sur l'équateur qu'ici en France, que au nord de la Suède. Donc, comment on fait pour calculer les heures? Les savants, ils n'ont pas été d'accord sur le fait-là. Donc il y a des rites. On rentrera à fur et à mesure. Quand on avancera, j'explique souvent les différences entre les rites et les pourquoi les choses. Donc sache qu'Allah t'accorde la science, que ce qui annule les ablutions sont de deux sortes, les événements et les causes des événements. Alors là, il a une chose qui est assez, je trouve, assez subtile. On ne retrouve pas dans les autres textes cette forme de classification. En règle générale, on dit il y a quatre choses les ablutions sont classées en quatre événements. Lui, il a adopté un système qui est assez particulier. Il les a classées entre événements et causes d'événements. Alors, qu'est-ce qu'un événement? Quelque chose qui arrive. Et les causes, c'est ce qui le conduit à l'événement. Alors, l'événement, évidemment, c'est l'impureté. C'est l'état d'impureté. Et les causes, c'est ce qui va amener à l'état d'impureté. Ça veut dire qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, dans sa nature essentielle, il est pur. L'homme a été créé pur. Nous sommes la base de tout, de nos pratiques, c'est que nous sommes purs. Si j'ai un doute sur ma pureté, je prends ma nature d'origine, qui est la pureté, et donc je suis pur. Donc ça, il élimine tous les doutes sur l'état de l'homme. L'homme, il est pur et il ne fera les ablutions quand il a la certitude qu'il est en état d'impureté. Donc qu'un événement est venu contrarier son état de pureté originelle. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les religions. Certaines religions considèrent que l'homme a besoin de se purifier. Le judaïsme considère que l'homme a besoin de se purifier pour arriver à l'état de pureté. C'est-à-dire que la purification est adjacente, elle est collée avec ce qu'il va faire après. Il ne se pose pas la question s'il est déjà pur et il ne peut pas faire la prière. Non, il va faire la prière, donc il doit se purifier, même s'il est pur. Vous voyez la différence? Alors que nous, non, dans l'islam, l'homme, il est pur. S'il a un événement qui est intervenu qui l'a rendu impur, il pratique un rite de purification. Si le rite de purification est là et qu'il l'a purifié, il peut faire 5 prières, voire plus, s'il reste toujours sur son état de pureté. D'accord? Donc l'état de l'individu est la pureté. De l'homme comme de la femme. D'accord? C'est très important ça. La femme aussi est un état de pureté. Alors, il rentre dans les détails donc. Quant aux événements, donc il commence par les événements, ils sont au nombre de 5. 3 proviennent du sexe, donc de l'avant du corps humain, qui est le sperme, les excrétions prostatiques et l'urine. Donc ça concerne l'homme. L'homme a les seuls qui a des sécrétions, enfin qui sécrètent du sperme, des sécrétions prostatiques et de l'urine. Alors l'urine, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, tout le monde sait ce que c'est que l'urine. Elle touche les deux, elle touche aussi bien l'homme que la femme. Les sécrétions prostatiques, c'est un liquide blanchâtre qui est généralement qui est produit par excitation. C'est pas du sperme, mais c'est une excitation qui fait un écoulement prostatique. Attention, l'homme et la femme sont sujets à ça. C'est-à-dire que quand, par excitation, la femme a une sensation d'humidité au niveau du vagin, elle a produit ça. Elle a produit la sécrétion prostatique qui a humidifié son vagin. Et donc, à ce moment-là, elle a perdu sa pureté originale. L'homme, ça a besoin de sortir du sexe, la femme reste à l'intérieur de ce qui est son sexe à elle. Parce qu'on a un sexe extérieur et un sexe intérieur. Donc les deux. Et le sperme, seul évidemment la femme produit, seul l'homme produit du sperme, bien que la femme, sous l'effet d'excitation, peut avoir une production qui n'est pas de sperme, puisque c'est un terme spécifique à l'homme, mais qui est une sécrétion comme un prostatique qui fait office de sperme. Donc ça, c'est les trois éléments qui viennent du sexe. Et deux qui viennent du rectum, donc de l'arrière, de l'anus, qui est le pète, c'est-à-dire le vent, quand on a du vent, et les selles. Donc on a cinq éléments qui, quand ils se produisent, seuls ou indifféremment, ou plusieurs, font sortir l'homme de l'état de pureté, l'emmène à un état d'impureté. En sachant que l'état d'impureté, il va être restreint dans le temps. Parce qu'il est survenu et il peut être levé dès qu'on veut, on peut le lever par les ablutions. Donc l'état d'impureté, c'est vraiment... Mais l'état d'impureté ne rend pas très important l'homme impur. Une personne qui est en état d'impureté n'est pas impure en elle-même. C'est-à-dire que si je suis en état d'impureté, je peux serrer la main de mon ami, il ne va pas devenir impur, je peux embrasser mes enfants, je peux embrasser ma femme, ça ne le rend pas impur. Ce n'est qu'un empêchant, c'est quelque chose qui vient se mettre entre moi et la pratique religieuse. C'est tout. Pour la prière, pour certaines pratiques religieuses, mais ne me donne pas une incapacité, ne me rend pas impur moi-même. Ce qui est différent dans les autres religions. Le judaïsme, une personne impure, par toucher, communique son impureté aux autres. Et on la retrouve aussi dans beaucoup d'autres religions. L'impureté est communicative. Par exemple, dans le rite judaïque, quand une femme a ses règles, elle doit sortir de la maison parce qu'elle rend la maison impure. Et donc, on mettait des tentes devant les maisons où les femmes se mettaient dans les tentes pendant qu'elles avaient leurs règles, et on leur obligeait à un bain rituel de 3 fois pour pouvoir permettre pour qu'elles rentrent en état de pureté. Donc, vous voyez qu'il y a des trucs qui sont quand même un peu plus stricts, hein, qu'est-ce que nous avons. D'accord ? Donc ça c'est chose très importante, les cinq éléments. Donc ça, je pense que tout le monde est tout court. Alors maintenant, ces choses-là sont assez simples à comprendre. Si vous avez après des questions, je peux répondre aux questions. Mais je pense que les éléments sont assez compréhensibles. Quant aux causes, alors là on passe aux causes. Là c'est des événements. Un événement, attention, il y a une chose, j'insiste là-dessus parce que souvent on me pose des questions. C'est leur sortie qui cause l'impureté. La sortie de votre corps. Si vous êtes taché par de l'urine, vous ne perdez pas votre pureté. Vous lavez l'endroit qui a été touché par l'urine ou par le sperme, mais vous ne perdez pas votre pureté à vous. C'est leur sortie de votre corps qui fait perdre les ablutions. Est-ce que je suis clair là? C'est-à-dire, souvent on me dit, ah oui, mais je change mon bébé. Ah non, je me lave. je lave l'endroit qui a été sali par l'urine. Ou le vêtement, déjà je lave mes mains, parce qu'il est possible qu'il y ait de l'urine sur la peau, et que j'ai touché la peau, et que j'ai de l'urine qui a été communiquée à ma peau, donc ma peau a été en contact avec l'urine. Donc je lave mes mains après, ou s'il y en a un vêtement, on lave le vêtement, ou on change de vêtement, mais je ne perds pas mon état de pureté, d'accord? C'est leur sortie de votre corps qui vous fait perdre. C'est pas eux-mêmes, ces éléments sont impurs, donc puisque au contact ils rendent le contact impur, c'est l'urine, le sperme et les sécrétions rendent ce qu'ils touchent impur, mais il suffit juste de laver, ça en rentre dans le contact, d'accord. Mais par contre la sortie vous fait perdre l'impureté, votre pureté, d'accord. Alors maintenant on passe aux causes. Alors les causes, il commence à énumérer. Le premier est le sommeil. Il dit que le sommeil se divise en quatre sortes. Alors long, court qui annule les ablutions. Donc le sommeil long, le sommeil lourd qui annule les ablutions. Alors quel est le sommeil long, le sommeil court? Ben c'est le sommeil qui. D'abord qu'est-ce que le sommeil? Les savants n'ont pas. Là, on rentre dans par exemple, des considérations juridiques entre les quatre écoles. Qu'est-ce que le sommeil? Les savants n'ont pas été d'accord sur une définition du sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? D'ailleurs, je vais vous dire une chose, la médecine non plus. On ne sait pas définir le sommeil. On ne sait pas donner une définition scientifique du terme sommeil. Parce qu'il y a des sommeils, mais il n'y a pas un sommeil. D'accord? Alors, les savants ont essayé de donner des définitions. Je vous les résume. Il y en a qui ont tenu compte de l'état de l'individu, donc de la personne qui dort, du dormeur, et d'autres qui ont essayé de définir par rapport à ce que c'est que le sommeil. Alors, ceux qui ont défini par rapport au sommeil, au terme de sommeil, ils ont dit on dort dès qu'on perd le contact avec la réalité. Ça, c'est le terme générique. Alors, on a dit comment on perd le contact avec la réalité. Parce que je peux être là et entendre tout ce que. Eh bien, quand on perd le son, quand on n'entend plus, on n'est plus conscient de ce qui se passe. Là, on a une conversation entre deux personnes et que je ne comprends plus ce qu'ils sont en train de dire, je suis en train de dormir. Alors, d'autres, ils ont dit non, c'est quand on ne les entend plus du tout. Donc ils sont allés un peu plus loin. L'un il a dit c'est quand on comprend plus la conversation. L'autre il dit ah non, parce que je suis pas obligé de suivre une conversation. Donc je peux l'entendre sans chercher à comprendre, je ne dors pas. Et l'autre il a dit quand on n'entend plus. Donc c'est par rapport à la rupture du son, de l'oreille. Ça n'a rien à voir avec les yeux, parce que les yeux je peux fermer les yeux et ne pas dormir quand même. Donc c'est par rapport au son. Et d'autres, ils l'ont considéré par rapport à l'état de la personne, du dormeur. Alors, ils ont défini le moment où on entre en sommeil. Alors, ils ont défini le premier. C'est que si on tient un objet, on le laisse tomber, parce qu'on a un relâchement musculaire. Alors, d'autres, ils disent, si par exemple, vous êtes dans la mosquée, vous avez des doutes, pour savoir un truc, vous coincez vos cuisses entre eux. Et dès que les cuisses se relâchent, c'est que vous êtes endormi, donc c'est pour savoir un truc. D'autres, ils ont dit quand on a la salive qui coule, mais bon, tout le monde ne salive pas quand il dort. Et on a donné, tous les savants ont donné des recettes, mais ils ont tous été d'accord qu'à un certain moment, le sommeil, alors long, il faut un certain temps. On parle d'un sommeil long quand il dépasse en fait le quart d'heure ou les 20 minutes. Non. Vous me direz comment les gens ils ont défini ça, un quart d'heure, 20 minutes, comment ils ont dit? Ben ils ont dit c'est simple, c'est dès qu'on arrive à lire 50 versets du Coran, la durée de 50 versets du Coran qui fait à peu près un petit quart d'heure. Donc la longueur de 20 versets de Coran, ça représente, si la personne s'est endormie pendant la lecture de 20 versets du Coran en moyenne, c'est que c'est un sommeil long. Et bien sûr le sommeil le plus long c'est une nuit, quand quelqu'un dort toute la nuit, ou un sommeil lent, ou ce qui est admissible, c'est une sieste de 3 ou 4 heures, hein, évidemment, que là, on rentre dans un truc. Et lourd. Alors, lourd, on revient lourd à la rupture des sensations qu'on a avec l'extérieur, d'accord? Le sommeil long et lourd qui annule les ablutions. Court et lourd qui annule les ablutions aussi. On peut avoir quelqu'un qui s'enfonce dans le sommeil très lourd, c'est, il n'a plus de sensation là-bas, mais ça dure 2 minutes ou 3 minutes et après il se réveille. Celui-là aussi, la plupart des savants considèrent que ce sommeil-là annule les ablutions, parce qu'il a vraiment perdu connaissance, un peu comme si c'était évanoui. Vous voyez ? Il faut comparer ça à l'évanouissement. Quand il s'est évanoui, et il perd très très vite les trucs. Alors, court et léger qui annule les ablutions. Qui n'annule pas les ablutions, pardon. Alors, c'est celui qui, par exemple, il est comme ça, voilà, il somnole, hein, il n'est pas éveillé, il n'est pas... La plupart considèrent que, de toute façon, le rythme liquide considère que, pour eux, ça n'annule pas les ablutions. Et après, le quatrième, long et léger, il est préférable de refaire les ablutions pour celui-là. Alors, long et léger, c'est-à-dire que si quelqu'un passe 1h30 à faire ça, on se demande si vraiment à un certain moment il ne s'est pas réellement endormi sans s'en rendre compte. Donc il va faire. Sur ce thème-là de léger, les savants ne sont pas d'accord. Là, c'est le rythme malikite qui le dit. C'est le rythme de l'imam Malik. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il dit, pour lui, c'est simple. Il dit qu'on ne parle pas de l'individu, on parle du sommeil. Du moment qu'on va utiliser le terme sommeil, ça annule les ablutions. Qu'il soit court, léger et tout, du moment qu'on parle de... Parce qu'il dit, c'est le sommeil qui rompt les ablutions, c'est pas l'état du dormeur. Le tête de dormeur ne m'intéresse pas. S'il dort profondément ou léger, du moment qu'il dort, pour moi ça annule les ablutions. Quand il dort pas, c'est pas un problème. Mais du moment qu'il dort, et d'autres qui sont allés entre ces deux, qui ont considéré par exemple que tout ce qui est long annule les ablutions, et tout ce qui est court n'annule pas les ablutions. Et d'autres qui ont considéré que ça, il faut mettre un mélange entre les deux, entre le sommeil et le dormeur. Il faut voir l'état du sommeil et du dormeur. D'accord ? Et aussi, d'autres, ils ont dit, ça concerne l'individu lui-même. Il faut rentrer un terme. Est-ce que l'individu, quand il est lui-même endormi, est-ce qu'il a l'habitude, par exemple, d'avoir des paix ? Parce que là, c'est plus le sommeil qui va rompre, c'est les causes. Voilà, c'est les événements. Est-ce qu'il n'est pas. S'il a l'habitude d'avoir un relâchement musculaire qui permet un peu de sortir, un truc comme ça, même si le sommeil est très léger, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui est sorti ou pas ? Et peut-être pas. Donc, vous voyez, on a plusieurs événements. Moi, je considère qu'il faut dire en général que le sommeil rompt les trucs. Pour quelle raison ? Pour une raison tout à fait pratique, c'est que si vous passez un état de pratique religieuse qui doit être consciente après, se rafraîchir et se remettre les idées en place, c'est quand même mieux. L'eau va vous permettre de passer d'un état à un autre, c'est quand même mieux. Et en plus, on demande dans l'islam de prendre toujours des précautions. Nous sommes pas... Ça, c'est des choses... Il faut vous rendre compte qu'on va étudier plein de choses qui ont l'air absurdes, parce qu'on se dit, pourquoi on se pose la question ? On a qu'à en faire les ablutions, et puis c'est tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'eau. On n'a pas, il n'y avait pas de robinet, vous tournez l'eau, elle est là. Et l'eau, c'est une denrée très, très, très rare. Et c'est on faisait ses ablutions avec ça, avec un verre d'eau. Pour toutes les ablutions, le prophète faisait, relisait les hadiths de Bukhari, prenait son bain avec le moud. C'est que ça représente combien ? Ça représente 1 litre et 1 quart. Il prenait un bain avec 1 litre et quart d'eau. Un bain. Alors vous imaginez bien que ces ablutions, il les faisait avec beaucoup moins que ça. Oui ? Donc c'est à l'époque, c'est pas de nos jours. Vous rendez compte, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc aujourd'hui, on a une facilité. Si on a un doute, on refait les bains en sachant qu'après, on verra que l'économie de l'eau est très 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 importante. Alors la deuxième des éléments qu'il voit, c'est les qui annule les ablutions, c'est la perte de conscience. Alors il regroupe plusieurs éléments dans le fait de perdre sa conscience. Le sommeil est une perte de conscience. Non. Elle est même appelée dans l'islam la petite mort. Parce que le Coran dit Allahu yaqbudu al-anfusa hina mawtiha, Dieu recueille les âmes quand elles meurent, et وحين نومها, et quand elle dort. Donc là, l'âme est recueillie et protégée pendant ce temps-là. D'accord ? Donc on l'appelle. Là, il parle d'autre chose. C'est, il parle de la folie. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer le terme de folie. De toute façon, la folie vous fait sortir de l'islam. C'est-à-dire, vous n'êtes pas devenu non-musulman, mais vous n'avez plus aucune obligation. Ceux qui sont fous, ou qui n'ont pas la conscience suffisante, n'ont aucune obligation de faire l'islam, de pratiquer aucun rite. Puisque la première, les trois principes pour que vous soyez obligé de pratiquer l'islam, c'est l'aql, le premier, c'est la présence de la conscience, donc vous savez ce que vous faites, vous comprenez ce que vous faites. La deuxième, c'est l'âge, il faut que vous soyez après la puberté, et l'islam, c'est-à-dire une fois que vous avez la shahada, vous avez prononcé la shahada. Et quand vous avez les trois qui sont réunis, tous les principes de l'islam sont applicables à vous, prière, zakat et tout ça. Mais dès qu'un des éléments est perdu momentanément ou pour une longue durée, pendant ce temps-là, teklif, c'est-à-dire l'obligation d'accomplir les actes d'adoration, sont suspendus. D'accord ? Donc la folie est un des événements qui fait suspendre, mais la folie peut être s'étendre sur un coup de folie, mais on parle aussi d'un truc qui s'étend sur. On peut être. Est-ce qu'on. Maintenant, le problème, c'est qu'avant, on savait ce que c'était que la folie. C'était des actes inconsidérés. Mais maintenant, on a des folies qu'on ne connaissait pas du tout avant, qui sont, on appelle les traumatismes de la conscience. Tout ce qui rentre sur l'effet de la traumatisme de la conscience, c'est les gens qui deviennent complètement détachés, ils sont en dépression, une dépression nerveuse telle que ils n'ont plus de conscience autour de. Moi, je m'appelle souvent pour aider des gens comme ça. Malheureusement, à part la prière, on ne sait pas quoi faire avec ces gens-là. Ils ont traversé un choc psychologique, ils ont fait perdre conscience de l'état. Ils font souvent, moi je dis, si poussez-le à faire la prière, ça sera toujours un moment pour le calmer, au moins pour. Mais ils n'ont pas de notion de temps, d'événements, des trucs comme ça. Et d'autres, alors, des folies un peu plus légères, c'est des gens qui sont en dépression tellement qu'ils sont enfermés sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont plus de conscience, ils souffrent intérieurement. C'est une forme de folie. Et ce que les anciens l'auraient sûrement appelé folie. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas folie. Mais est-ce que c'est pas une forme de folie? Moi je dis oui. Parce que quand la personne est enfermée à un tel point sur elle-même qu'elle n'est plus touchée par ce qui se passe autour d'elle, c'est fort quand même, c'est une forme de folie. Et vous avez des folies, puis. Alors après, on aura tout ce qui est folie, mais qui ne font pas perdre. La personne, elle est consciente dans des moments de la journée, et d'autres moments, elle est moins consciente. Mais en fin de compte, en résumé, elle est abrutie à cause des médicaments qu'on lui donne. Donc là, est-ce que c'est ça? Là, évidemment, il faut regarder cas par cas, mais il est évident que l'islam, du moins, va nous donner une indication dans ce but-là. Il faut réveiller la personne dans son état d'inconscience. Il ne faut pas maintenir les gens dans sous un effet médicamenteux. Quitte à ce qu'on prenne une personne pour s'occuper directement de cette personne, mais il ne faut pas laisser les gens dépendants des médicaments. Parce qu'en fait, on crée artificiellement un état de dépendance. Quand c'est nécessaire, quand la personne est violente et qu'elle a besoin de médicaments pour qu'elle ne nuit pas ni à elle-même ni aux autres, c'est une obligation, mais le maintenir dans un état d'apathie pour dire ben comme ça moi il souffre pas, non, c'est deux choses différentes. D'accord, donc il faut bien faire attention à ça. L'évanouissement, ça peut arriver à n'importe qui, hein, sous un choc ou sur un autre, on s'évanouit. Évidemment, pendant tout le temps de on est évanoui, on n'a aucune obligation, mais l'évanouissement doit suivre des ablutions. Après l'évanouissement, on refait les ablutions. Pourquoi l'évanouissement? C'est un état de conscience. On a pu perdre du sperme, on aurait pu perdre du pète, on aurait pu toucher des excréments. Mais l'état, c'est qu'on perd la conscience. Et dès qu'on perd la conscience, il faut revenir à un état de pureté. C'est ça qui est important. C'est pareil, quand on dort la nuit, on a une perte de conscience. Quand on se lève le matin, il faut refaire les ablutions, même si on a la certitude que rien ne s'est passé. Et l'ivresse. quand on a un état d'ivresse. Alors les ivresses sont de deux sortes, hein, dues aux alcools et dues aux drogues. Et dans les deux cas, c'est une perte de conscience, une perte de la truc, et on doit refaire les ablutions tout de suite après. Alors les ablutions s'annulent aussi, alors il aborde d'autres termes, par l'apostasie, qui est le fait de renier sa religion. Si vous êtes musulman, vous sortez de la religion, et évidemment vous perdez vos ablutions, vous devez refaire ce que vous devez refaire si vous revenez dans la religion. Refaire les ablutions, c'est-à-dire être en état d'impureté pour prononcer la shahada. Donc chaque fois. Alors là, c'est très important, parce que qu'est-ce qui fait sortir de la religion? On est rentré dans le détail, je crois que par contre, ce cours-là, il est bien dessus sur le truc. Revenez, vous verrez que dans l'apostasie, c'est des choses, beaucoup de choses vous font sortir de l'islam sans vous rendre compte. Vous savez que dans nos pays, par exemple, en Afrique du Nord, on maudit beaucoup le nom du prophète et le nom de Dieu dans sa parole de tous les jours. Et ça, ça vous fait sortir de l'islam. Même si c'est pas voulu. Le kofr, hein. Il dit un gros mot, c'est dans les gamins, hein, ça. Et les personnes qui ont ça, c'est, chaque fois que vous le prononcez, vous sortez de l'islam. Tous les savants sont, que vous le soyez volontaire, quand on dit ouais, mais c'est pas ce que je pensais, non, c'est. Une parole est une parole. Il ne faut pas oublier que l'islam, c'est une parole. Quand je dis « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah », c'est une parole. Donc si je dis « Je maudis Dieu », c'est une parole aussi. Celle-là vous fait rentrer dans l'islam, celle-là vous en fait sortir. Donc il ne faut pas dire « Celle-là, elle est volontaire, elle compte, celle-là, elle compte pas. » Parce que c'est dans l'habitude linguistique, non. Elle vous fait sortir aussi de l'islam. Ça a surtout pour but de faire attention. Et je pense que de nos jours, elle est encore plus importante. Peut-être pas, parce qu'on a une catastrophe qui sont dans les pays arabes, qu'on n'a pas, grâce à Dieu, ici, dans les pays occidentaux. C'est les gens qui, pour n'importe quel truc, divorcent avec sa femme. Il dit « tu es divorcé ». L'islam, quand il dit à sa femme « tu es divorcé », ça y est, le divorce est prononcé. Elle lui est plus autorisée. Chez nous, le gars, il joue aux cartes avec sa femme, si on ne gagne pas, je divorce. La femme, la pauvre, dans le bled, il joue avec ça comme si c'est devenu dans la tradition des trucs. Ça prononce. La parole dans l'islam est importante. Beaucoup de nos adorations ne sont que des paroles. Donc la parole a sa place. Elle a un poids auprès de Dieu. Donc c'est pour ça que le musulman sera. C'est-à-dire juger pour toute parole prononcée, mais Dieu a levé de nous pour qu'il ne nous juge pas sur nos pensées. C'est une grâce que Dieu nous fait. Si nous pensons mal, mais que nous ne nous transformons ni en parole ni en acte, Dieu ne nous juge pas pour ces mauvaises pensées-là. Mais au moins, retenons notre langue. Peut-être qu'on, sous l'effet de violent, un truc comme ça, on peut avoir une mauvaise pensée et désirer. Mais au moins qu'on passe pas ni à la parole ni à l'acte. Alors quand même, c'est catastrophique. Donc il faut bien faire attention que l'apostasie, c'est pas seulement quelqu'un qui. Oui.
Et il me semble aussi d'avoir entendu que si on n'est pas, on fait du mal content de ce qu'Allah nous apporte et que Dieu regarde ça, c'est aussi de l'apostasie.
Non. Non, l'apostasie, c'est vraiment quand on sort de l'islam. Mais il y a par contre des éléments qui sont kufr ghayr kufr, c'est-à-dire c'est de la mécréance plus que de l'apostasie. L'apostasie, c'est renier sa religion. Il y a des actes qui font renier. Si vous combattez les musulmans, il est évident que vous avez renié votre religion. On ne peut pas combattre des musulmans, d'accord? Combattre des musulmans, c'est renier sa religion. Si en ce moment, il y a des gens qui se battent pour leur liberté, vous vous battez contre eux parce que. Non. Même si vous ne battez pas contre eux parce qu'ils sont musulmans, mais vous, en sachant qu'ils sont musulmans, vous devez les soutenir. Soutenir. Toute religion soutient ce qui est juste. Donc il faut soutenir la justice. Il faut soutenir les causes justes. Il ne faut pas les condamner. Donc il ne faut pas lutter contre. Et l'ignorance aussi, peut-être. Si vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de votre aide et que vous ne leur apportez pas leur aide, c'est une certaine manière de les combattre. Hein. Vous comprenez? Donc c'est très lent. L'apostasie, on fera un jour un cours là-dessus, mais par contre, il y a dans nos comportements de tous les jours du kufr, c'est-à-dire de la mécréance, sans qu'il nous fait sortir de l'islam. Si par exemple, quand le prophète il dit la yuhibbu ahadakum la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, personne de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il souhaite à son frère ce qu'il souhaite à lui-même. Il est évident que si je ne souhaite pas moi, à mon frère ce que je ne sors pas de l'islam, mais ça c'est un complément, c'est-à-dire que la foi ne sera jamais complète sans qu'il y ait ça. Vous serez musulman, mais votre foi ne sera pas complète. On a des centaines de hadiths là-dessus, dit passant. Par contre, vous ne serez jamais croyant si vous ne souhaitez pas le bien à votre voisin. C'est évident que ça, c'est pas parce que je ne souhaite pas le bien que ça fait sortir de la religion.
De quelqu'un qui a toujours vécu dans une tradition musulmane,
sans pratiquant.
Voilà. Est-ce qu'il doit faire ses ablutions aussi?
Oui, quand il rentre dans le truc, ouais. Donc quand il rend, même quelqu'un qui est né dans une culture musulmane, qui a vécu dans une famille musulmane, le jour où il sent que chaque acte va être jugé, il faut qu'il fasse. Il faut savoir à quel moment il va être. La chose est très. Moi, je trouve que souvent on dit Ahmed ibn Hanbal, donc le dernier grand des savants de l'époque des imams, on dit c'est le plus dur, c'est le rite hanbalite, c'est le plus dur et le plus facile, c'est le Hanafi et le moyen, c'est Shafi'i et Malik. Moi, je dis non, pas forcément, faut pas réfléchir de. C'est pas, on va voir comment. Mais il faut savoir, par exemple, Ahmed ibn Hanbal dit. Je prends par exemple l'histoire de la prière. Ahmed ibn Hanbal dit, celui qui ne fait pas la prière, ce n'est pas un musulman. On va dire, il est vachement dur. Attendez, il y en a beaucoup. En sachant qu'il y a 15% de gens qui font que seulement la prière, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans sur terre. Hein. Mais pourquoi, moi je dis, ce rite-là est le plus simple? Parce que vous vivez votre... Je prends toujours le même exemple. Vous avez Mohamed et vous avez Jean. Ils prennent la retraite à 65 ans. Au bout d'une semaine, ils s'embêtent tous les deux parce qu'il n'y a plus de boulot. Mohamed se rappelle qu'il y avait la prière. D'accord? Que dans ce qu'il a vécu de son islam et tout, il y avait la prière. Il se dit, tiens, maintenant que j'ai le temps, je pourrais faire la prière, pourquoi pas. Maintenant que j'ai plus le boulot, j'ai plus ceci et tout. Donc il fait ses ablutions, il commence à faire la prière. Jean rentre. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, mais je fais la prière. Mais c'est quoi ça, j'ai jamais entendu parler. Il dit, tu sais, nous les musulmans et tout. Jean le regarde, il dit, oh, toi on a toujours. Après on va au bistrot. Il dit, ah non, maintenant que je fais la prière, je vais plus au bistrot. Je vais plus boire de bière et tout. Il dit, ouais, c'est vrai que moi le médecin il m'a dit, il faut plus boire la bière et tout. Il dit, tiens, je vais devenir musulman. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, il faut que tu fasses les ablutions et tu me suis, tu vas faire la prière. Enfin, ils font une raka, ils meurent. Pendant qu'ils sont en train de faire la raka, ils meurent. Il arrive là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Mohamed, on va lui dire, on va compter le nombre de tes prières. Tu as 65 ans, tu nous dois 55 ans de prières. Ils sont où? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Et toi, Jean? Moi, je viens de me convertir. Tout ce qui était avant est effacé. Tu as fait ta prière toute ta vie. Lui, il ira au paradis. Jean ira au paradis. Le musulman ira en enfer. Enfin, celui qui se considérait musulman. Vous voyez là le jugement? Parce qu'on sait que c'est la prière qui sera le départ du calcul.
Non, mais si...
Il s'est considéré comme musulman. Mais bon, c'est pour ça que je te dis la position de l'Ahmad ibn Hanbal dit c'est mieux si Mohamed, avant de faire sa première, s'est considéré comme mécréant avant, et il serait allé au paradis. Il va là, il dit, mais lui il se considérait comme musulman, mais non pratiquant.
Il y en a plein.
Ah, il y en a tout plein. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, de comprendre cet élément-là.
On l'a jamais dit, par exemple, moi quand j'ai commencé à pratiquer.
Mais je sais qu'on ne le dit jamais aux gens. Il faut savoir que l'imam, le passage à l'état de musulman, est un passage.
c'est un engagement.
C'est un baptême, c'est une sacralisation. La sacralisation, la différence avec le christianisme, par exemple, c'est que la sacralisation peut être sans le consentement et la conscience de la personne qui l'a subi. On baptise un enfant qui n'a pas conscience de ça. Alors que nous, c'est un passage conscient, puisqu'on revient aux trois principes. C'est-à-dire la conscience, l'état de compréhension et l'islam. Et l'âge, quoi. L'âge, l'état de compréhension et l'islam. D'accord ? Et l'islam, c'est un moment qui doit dépendre de ces deux-là. Donc, si vous arrivez à un certain âge et que vous avez votre compréhension, vous savez ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pour ça que le verset coranique, il dit بَلْ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا. L'homme a sur sa propre conduite une conscience, même s'il nous présente des excuses. Même il dit, j'ai pas le temps, vous voyez bien le... Il sait qu'il a... S'il présente des excuses, il sait qu'il est dans l'erreur. Il sait, il basira, ce terme-là, un jour on l'expliquera, cette conscience de ce qu'il fait, il sait ce qui est bon de ce qui est mauvais. Tu voulais...
Ouais, c'était encore sur l'histoire de...
Oui.
Mais en fait, on doit quand même à Dieu toute notre vie adoration. Et le fait que juste avant de mourir, il se convertit et il faut les prêter.
Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais... Avec,
non, il ne peut pas dire devant Dieu, c'est impossible dans le...
Non, regarde, je te donne un autre exemple. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une histoire, je vais terminer avec ça, il y avait un grand poète qui s'appelait l'Arsha. C'est un des très grands poètes du monde arabe. C'est une sommité. C'est l'Armash. Ce bonhomme-là a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à Mecque. C'était un Mekkois. Donc on le payait pour faire des poèmes, pour insulter le prophète et tout. Il a... Puis quand, après l'immigration et tout, au bout de 1 ou 2 ans, il a décidé que bon, il est temps de suivre. Et il dit, en fin de compte, ce qu'il présente, ce bonhomme-là, c'est bien. Donc il a décidé de partir, de rejoindre Médine et d'aller se convertir à l'islam. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a monté sur sa monture et tout. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je vais rejoindre Mohammed et je vais me convertir à l'islam. Alors il lui dit, mais tu sais que Mohammed, il demande 5 prières par jour. Il dit, ouais, il était assez âgé, hein, il devait avoir dépassé les 60 et tout. Il dit, oui, mais tout Dieu mérite un culte. Donc, les statues méritent un culte, celui-là demande 5 prières, de toute façon, ça mérite un culte. Donc, si c'est un Dieu, c'est normal qu'il y ait un culte pour ce Dieu-là. Alors, il dit, mais en plus, il te prélève de ton argent pour le donner aux pauvres. Il a dit, donner aux pauvres, c'est un acte qui est bien. C'est d'aider les gens qui sont dans la nécessité, ça ne peut pas être une chose mauvaise. Il ne savait plus quoi lui dire. Il lui dit, ah, mais t'interdis l'adultère, de coucher avec des femmes que tu as envie. Il a dit, je suis devenu vieux, maintenant l'adultère ne m'attire plus beaucoup. Ça ne m'attire plus les femmes. C'est mon âge, 70 ans, ça ne m'attire plus beaucoup. Alors il dit, mais il t'oblige à être avec des gens que tu n'as pas envie. Il parle aux esclaves, c'est-à-dire que quand on fait la prière, ça a été un gros problème au début, hein, pour les musulmans. C'est-à-dire que tu fais la prière à côté d'un esclave, qui peut être ton esclave. Mais tu fais la prière dans le même rang que lui. Tu fais la même adoration, tu adores le même Dieu, tu as les mêmes obligations que lui. C'était pas facilement acceptable par les musulmans au début. C'est ça, quand vous réfléchirez un jour, on réfléchira ensemble sur, quand on terminera d'expliquer sur toute classe, pourquoi l'islam a été combattu, a été souvent combattu. Comment un esclave peut avoir le même Dieu que moi? C'est pas possible. C'est pas logique. Je suis son maître, il peut pas avoir le même Dieu que moi. Donc, parce qu'avant, l'esclave prenait le Dieu de son maître. Mais bien sûr, il était inférieur, l'esclave, à son maître. C'est-à-dire, son maître lui disait ce que Dieu lui demandait. Donc, il devait l'obéir. Mais là, on se retrouve tous les deux à obéir au même Dieu. Mais il dit, tu vas te retrouver avec des gens qui ne sont pas de ton niveau. Il a dit, Dieu nous a créés tous de terre, d'argile. Donc, nous sommes tous égaux. Il a dit, alors ils ont trouvé le truc, ils lui ont dit, Dieu va t'interdire l'alcool. Il a dit, alors ça, je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter de boire. Il a dit, bon, je vais encore passer une année, et l'année prochaine, je me sevrai pendant un an, et l'année prochaine, je le rejoindrai. Il est monté sur son chameau, il est tombé de son chameau, il est mort. Quand on a rapporté l'histoire au prophète, il a dit, voilà où Athènes, s'il était venu, avec tous ses péchés, Dieu lui aurait tout pardonné, y compris qu'il aurait continué à boire l'alcool. Il aurait été mieux pour lui de venir et pendant essayer d'être un musulman en ayant des fautes que de ne pas pratiquer en espérant être pur. Qui c'est qui peut espérer accomplir tout ce qu'on nous demande de nous dans le meilleur des... C'est pas possible. On a tous des faiblesses et tout. Mais l'élément, pour répondre à ta question, l'élément principal, c'est que l'homme doit faire de son mieux, sans se chercher d'excuses. Puisqu'il voit, quelqu'un a des difficultés à faire la prière. Quand il a des difficultés à faire la prière, on a beaucoup de gens ont ce problème-là. Et peut-être les femmes aussi, souvent, les femmes ont une supériorité sur l'homme. Ils ont une récompense supérieure à l'homme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une rupture. Si on fait les choses tous les jours, peut-être qu'on le fait mécaniquement, mais les femmes, toutes les trois semaines, elles ont, pendant une semaine ou deux semaines, font plus la prière à cause de la règle. Donc, reprendre quand on s'est arrêté, c'est, vous savez bien, c'est un peu comme le ramadan, les trois premiers jours, c'est difficile, après, on ne peut plus, on a envie que ça continue, mais c'est pareil. Donc, une remotivation dans ce truc, même si après il y a des coupures, mais vous serez au moins engagé dans une voie. Vous serez engagé dans une voie. Le problème de ceux qui se considèrent musulmans et qui n'ont aucune pratique, c'est que sur quelle base je vais les juger? Quelle est la différence entre eux et quelqu'un qui ne se considère pas comme musulman? Je prends l'exemple tout simplement. Un musulman moyen, c'est-à-dire qu'en fait on n'a rien, personne, on trouvera personne qui va dire du bien de lui. Il fait mal à personne, mais il ne fait jamais de bien autour de lui. C'est quelqu'un, on va le dire, de discret, qui vit dans son coin. Comment voulez-vous le juger? Il pratique pas. Comment voulez-vous le juger? Et à côté, vous avez un type qui est chrétien ou juif ou bouddhiste ou un truc comme ça, qui n'arrête pas d'aider les gens, qui n'arrête pas qui est dans les associations, un truc comme ça. Celui-là, il fait quelque chose pour lui, pour les autres, pour les musulmans et les trucs. Il donne de son argent, de son temps, de sa santé. Pourquoi lui, il ira en enfer et celui-là, il ira au paradis sous prétexte qu'il pense aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Mohammed est son prophète? Pas de justice là-dedans.
Ah ben moi j'aurais pensé que quand même
il
a reconnu quand même qu'il y avait un Dieu qui est unique, alors que l'autre il était carrément dans la perdition.
Mais quelle est... Il fait rien.
Non mais je veux dire l'autre, il le fait du bien.
Non mais je ne suis pas le juge. Je ne suis pas Dieu. Je vous dis toujours, sur Terre, il ne faut pas juger les autres. Mais quelque part, je veux dire, mettons-nous à notre niveau maintenant, à nous, est-ce que vous trouverez qu'il y aurait une justice? Si celui qui commet le bien pendant toute sa vie, mais qui ne croit pas au prophète de Mohammed, aille en enfer, et celui qui n'a jamais rien fait pour personne, aille au paradis parce qu'il le reconnaît comme prophète. Il y aurait quelque part une injustice. Il y a forcément une injustice. Pourquoi l'injustice réside? Pourquoi? Quel est le but de l'adoration? Quel est le but de toute religion?
D'approcher Dieu.
Dieu, voilà. Dieu. Ma perception de Dieu va changer. Si je prends tous les musulmans, je leur demande qui est Dieu, elle va changer. Si je prends les chrétiens, alors j'aurai un autre sens. Si je prends les juifs, j'aurai un autre sens. Si je prends les... Je vous racontais la semaine dernière le problème des japonais. Chaque japonais a 8 800 000 dieux qui sont lui propres à lui. Quelle est notre représentation? Est-ce que le problème, c'est si on a un but qui est Dieu, le culte qu'on va lui accorder, il est forcément rentre dans le cadre de ce qu'on a vu le premier cours, les quatre compréhensions. On commence avec une compréhension individuelle, enfantile, pour arriver à une compréhension juridique. Si Si vous discutez avec des chrétiens, et c'est mon cas, j'ai souvent discuté avec des prêtres, ils te disent « Dieu n'est pas trois ». Vous, les musulmans, vous vous trompez, il n'y a pas de trinité, c'est un seul en trois éléments qui sont des entités qui s'entrent. Il me rappelle un père qui m'avait dit, il me dit, mais nous, bon, allez, j'admets que tu me dis que Dieu, c'est la trinité et qu'ils sont trois dieux. Il me dit, mais vous, vous en avez 99. Vous avez 99 dieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Quddus, Al-Salam, c'est les 99 attributs de Dieu. Il dit, vous en avez 99. Quand vous demandez, quand vous cherchez la clémence, est-ce que vous demandez à qui? À Allah ou à Jabba, celui qui impose? Vous demandez au clément. Allah est le clément. Donc, ne rentrons pas dans quelque chose qui est purement de la linguistique. Toute religion doit avoir un comportement qui est une idéalisation du comportement de l'être humain. Vous idéalisez le comportement, vous l'épurez pour enlever tout ce qui est les confettis autour, l'apparence, vous devez avoir un culte à une seule divinité. À une seule divinité, c'est-à-dire, vous savez qu'il n'y en a qu'un qui a créé le tout. Et si ce culte-là, il correspond dans ce qui est demandé par votre religion, vous êtes dans le juste. D'accord ? Le reste, c'est ça la difficulté. Donc, celui qui vit comme musulman et qui n'a aucune pratique, est-ce qu'il réalise un idéal? Non. Il est comme un animal. Le Coran dit, ils sont quel an'am balhum afdal. Il dit, ils sont comme les bestiaux, c'est-à-dire ils mangent, ils se reproduisent et tout, mais les animaux sont meilleurs qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent une fonction qu'on leur a donnée. Les animaux, eux, ils sont là pour nous donner de la viande, du lait, de la nourriture, mais l'être humain qui se dit croyant, proche de Dieu, qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Ça, c'est ça le problème. On a une fonction en tant qu'humain. Cette fonction, on doit arriver à la au moins œuvrer, même si on n'arrive pas. Après, Dieu est clément. Après, on rentre la clémence de Dieu. Mais faites un effort. Donc, cet homme-là qui avait un petit défaut qui était à l'école, il a en effet de pratiquer l'islam, et avec le petit défaut, et en espérant dans le temps l'éviter. Celui qui a des problèmes de ne pas faire la pratique. Moi, je connaissais quelqu'un qui, tous les vendredis soirs, il buvait beaucoup, tous les vendredis soirs, il sait que le lendemain, il habitait à côté d'une mosquée, qui, alhamdoulilah, il y avait beaucoup de gens qui venaient, et il les voyait. Et il se rappelait que le lendemain, c'est le Juma. Tous les Juma. Il faisait les grandes ablutions. Il refaisait sa shahada et il levait le fajr. Il allait faire la prière. Le fajr. Il faisait la prière de le Juma. Il terminait toute la journée et le samedi matin, il retournait au bistrot. Et dimanche, il ne faisait plus la prière. À la limite, je ne veux pas dire que c'est bien, mais c'est mieux que celui qui ne le fait pas du tout. Je veux dire, la nature de l'être humain, elle est faible. Qu'est-ce qu'il a besoin, cet individu-là? Il a besoin qu'on l'enclenche, il a besoin d'une aide. Parce que je me dis toujours que si les frères de cette mosquée-là l'avaient pris en main le samedi dimanche, en l'amenant manger chez eux, ça, il aurait passé une semaine sans boire. Vous voyez? Il faut enclencher. On ne sait pas la valeur des choses. C'est pour ça que le Coran dit « Al-hasanat et yadhabna sayyiat ». Les bonnes actions effacent les mauvaises. En général, il n'a pas dit « la bonne action efface la mauvaise », ça veut dire qu'une bonne action équivaut à une mauvaise. Il a mis le tout au pluriel pour qu'on ne sache pas quel est le poids. Est-ce qu'il faut plusieurs bonnes actions pour effacer qu'une seule mauvaise, ou il faut plusieurs mauvaises actions sans effacer par une seule bonne action? On ne sait pas, on ne connaît pas le poids de Dieu. Et donc, quand on ne sait pas le poids de Dieu, on n'a que les références qui nous sont propres. Il me dit de prier, je prie, dans la limite. Qui sait, qui peut dire aujourd'hui que sa prière est acceptée par Dieu? On espère tous qu'on est accepté par Dieu. Qui sait qui dit que le monde que je donne, elle est acceptée par Dieu? Je ne sais pas. On fait en espérant qu'on sera accepté. Donc c'est ça, là. C'est responsabiliser l'individu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما وصلى الله وسلم على نبينا محمد.